Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Radio.
Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desureau.
Cube Radio.
Bienvenue, bon après-midi. Vincent Desureau qui est là en remplacement de Mario Dumont qui est en vacances pour encore quelques jours. Journée encore une fois un peu grise, un peu fraîche, mais plus positive entre autres au niveau de certaines nouvelles. On va en parler dans les prochaines minutes du point de presse de Monsieur Legault et son équipe. Bonjour Alexandre.
Salut Vincent,
ça va bien?
Ça va toujours bien toi?
Très bien, surtout je vais pouvoir radoter tantôt à Jean-François Barry la victoire du Canadien hier.
Quand il m'a envoyé les sujets qui comptaient discuter aujourd'hui. Il a dit « Bon, Vincent va me niaiser encore. »
Oui, puis la beauté avec les prédictions sportives, c'est que n'importe quel maillet, incluant moi, là, dans le monde du hockey, à un moment donné, tu tombes dessus, puis tu peux te vanter que « Non, j'avais confiance envers le Canadien hier, puis honnêtement, c'était tellement le fun, ça fait tellement du bien. »
Moi, j'étais survolté, puis même des gens ici à la station, nos collègues qui écoutent moins souvent le hockey, là, on dirait qu'il y a la flamme qui revient tout d'un coup. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de... inspirant ouais. De voir un jeune là, de 20 ans compter des buts comme ça là, en prolongation.
Et j'ai remarqué, c'est peut-être parce que je m'ennuie vraiment des spectacles, des festivals, j'ai remarqué depuis la fin de semaine, j'applaudis devant ma télé. Okay. J'ai applaudi pendant Star Academy. Vraiment, genre, ah, bravo, Lulu, oui, bravo, William. Et j'ai applaudi Cole Caulfield, oui, mais vraiment, un applaudissement sans... Non, écoutons-le.
Armia on the ice now for the Canadiens. He'll cross with Jeff Petrie, who keeps the puck, backs up. Jeff Petrie to Cole Caulfield, shoot, score!
Non, mais pour
ça,
vrai,
ça donne le goût.
C'est un sourire qui est contagieux, celui de Cole Caulfield, et ça fait vraiment du bien en espérant que ça, on comprend que c'est, il fera pas ça toutes les games, là.
Ben oui, puis d'ailleurs, François Legault, tout à l'heure, hein, pendant le point de presse, qui a touché un mot là-dessus, hein, qui a dit que c'était à l'étude, on regardait, là, avec la santé publique et tout pour savoir si ça va être possible. Si le Canadien fait bel et bien les séries, là, on s'entend, on est à comme 98% de chances que ça fonctionne, mais quand c'est confirmé.
Qu'on puisse avoir des gens dans l'aréna.
En présentiel.
En présentiel.
Ce terme que je déteste.
Ça
en présentiel.
Si loin, mais pas impossible qu'on ait des spectateurs pour les matchs éliminatoires au Centre Bell. C'est loin, là, et on va quand même pas s'emballer tout de suite, mais c'est pas impossible qu'il y ait des gens au Centre Bell d'ici la fin de la saison. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je voulais faire une parenthèse aussi, parce que c'est une journée importante pour nos auditeurs, les Québécois en général, mais nos auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est les 50 ans aujourd'hui du drame, de la tragédie de Saint-Jean-Vianney. Moi, je suis trop jeune pour me souvenir de ça, mais moi qui, de la famille, toute la famille du côté de ma mère vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils m'en ont souvent parlé à quel point ça les avait marqués grandement, là, qui étaient dans leur adolescence au moment de ce drame épouvantable dont on soulignait les 50 ans. Aujourd'hui, il y a des toutes sortes de cérémonies aujourd'hui, dévoilement ce matin d'une œuvre, une espèce de grande structure en métal là, pour se remémorer les 31 vies perdues. Il faut dire une vie chamboulée pour plus de 1000 personnes, les citoyens de Saint-Jean-Vianney qui ont été évacués dans le drame à cette époque-là. Et d'ailleurs, on nommait également la catastrophe comme étant, par le ministère de la Culture et des Communications, un événement historique officiel comme étant un tournant au Québec en matière d'expertise scientifique, de sécurité civile, sécurité publique et solidarité sociale. Donc vraiment, on met ce drame-là un peu dans la liste des grands drames ayant touché le Québec, mais qui ont transformé le Québec. Vous rappelez quand même que le 4 mai 1900 71 à 22h55. Si vous êtes levé à cette heure-là, vous aurez une pensée. En pleine série éliminatoire de hockey, justement, on a souvent rappelé que c'est en raison de ce match. Si plusieurs personnes, étant donné que c'était diffusé tard le soir, sont demeurées éveillées, ça a sauvé quand même quelques vies. Et soudainement, la terre bouge sous les pieds des résidents. Une partie du village s'effondre. Le réseau électrique se coupe. Alors, tout le monde se retrouve en pleine noirceur dans une coulée de boue. Évidemment, c'est la panique. avec une quarantaine de maisons, une trentaine de taux qui sont engouffrés dans un trou de boue. Sur, on parle de 15 millions de tonnes d'argile et de sable qui sont emportées dans la rivière Saguenay. 31 victimes trouvent la mort, 56 maisons disparues. Et j'entendais une survivante aujourd'hui qui était aux abords de cette œuvre-là pour le dévoilement et qui disait il y a encore 12 personnes, il y a 12 corps qui n'ont jamais été retrouvés, qui sont quelque part, qui sont là. Alors qu'on n'a jamais revu de traces de ces gens-là. Alors imaginez-vous le drame, là. Vous, tout ce que vous connaissez, votre village, l'endroit où vous habitez, en plein milieu de la nuit, tout disparaît dans la panique. Il y a des gens que vous ne revoyez tout simplement pas de votre vie. Donc vraiment un drame qui a marqué les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Québécois qui étaient qui s'en souviennent. Alors quand même une commémoration, je trouvais importante. Aujourd'hui, Alexandre, dans l'actualité, beaucoup de choses. Commençons quand même traditionnellement avec le bilan des cas qui est quand même bon aujourd'hui, encore une fois.
Et très similaire à hier. Hein, il y a un cas de moins. Hier, c'était 798 infections. Il y en a 797 aujourd'hui. Un peu plus d'hospitalisation, plus 6 soins intensifs, 4 personnes de plus aussi. Mais ça reste relativement stable, encore une fois. 16 nouveaux décès à déplorer. Puis les cas, ça reste encore dans les mêmes régions. Montréal, on est encore en bas de la barre des 200, 180. 90 cas aussi dans cette région-là. Chaudière-Appalaches, 121 cas encore. Hein,
Ça
descend pas encore assez vite. Ils sont presque au même nombre de cas que Montréal. Puis on s'entend, là, ces deux régions qui
C'est pas la même population
C'est pas la même population du tout. Puis jamais on se serait attendu là qu'il y a quelques mois de cela, qu'on soit au même presque au même bilan, là, disons-le. Mais
comme le Bas-Saint-Laurent qui est encore rose, quasiment 50, si je me trompe
49,
pas, encore aujourd'hui.
Ouais, exactement.
Il faut que ça baisse au Bas-Saint-Laurent. Là aussi, tu dis c'est 4 fois moins de cas qu'à Montréal, mais qui a 10 fois plus de population. C'est pas supposé, là.
Non,
c'est supposé redescendre.
C'est des situations qu'il faut continuer à de surveiller de près. Évidemment, on veut pas qu'il y ait des flambées comme il y en a eu, là, dans certaines régions, comme ça a été le cas dans Capitale-Nationale, par exemple.
Qui se sentir quand même bien, aujourd'hui.
Ben oui, Capitale-Nationale, ça continue à être bas, 75 cas.
Bon, ça semble en baisse, alors on va le prendre. Et ça amenait d'ailleurs à certaines bonnes nouvelles, incluant des assouplissements annoncés dans plusieurs régions, parce qu'il y a des coins, là, où c'est plus chaud. Mais en général, aujourd'hui, dans le point de presse de François Legault, on annonçait certains assouplissements. C'est léger encore, mais on était positif.
Oui, puis on parlait de la capitale nationale, le Grand Québec, là, qui va passer au palier rouge à compter de lundi prochain. Là, presque toutes les mesures qu'on va nommer, là, c'est à partir de lundi prochain que ça prend effet. Élèves de secondaire 1 et 2 qui retournent à temps plein en classe. Secondaire 3, 4, 5, c'est en alternance, comme c'était déjà le cas avant. Couvre-feu qui revient à 21h30 aussi. Commerce non essentiel qui peuvent réouvrir. Donc, c'est l'espèce de fin, là, si on veut, de l'état d'urgence là, qu'il y avait dans la région de Québec. Donc, ça va faire du bien aussi. On était contents, on se réjouissait hier du couvre-feu à Montréal qui a repassé à 21h30. Donc, nos collègues de Québec vont pouvoir aussi vivre ça.
Oui, là, il faisait hier 8. Là, j'ai pas pu profiter. Ouais,
c'est ça
qu'on a beaucoup de Montréalais à avoir pas pu profiter du 9h30 hier, mais on va le sentir là, dans les prochains jours, dès qu'il va se mettre à faire beau. Puis je sais qu'à Québec aussi, ils sont très contents de passer entre 8 et 9h30. Il commence à avoir de plus en plus une grosse différence étant donné qu'il fait beau, ben il va faire beau et surtout qu'il va faire clair. Donc c'est des bonnes nouvelles. Je pense que c'est mérité pour Québec qui avait relâché là pour une partie de la population clairement, mais tout le monde s'est en général replacé.
Ouais, les gens se sont replacés, puis c'est peut-être aussi une démonstration, évidemment, je vais pas m'avancer là-dessus, mais que les mesures d'urgence qui ont été mises sont peut-être été mises à temps justement pour contrôler, endiguer, si on veut, la flambée qu'il y avait là. L'Abitibi-Témiscamingue aussi là qui était passé au orange, qui vont revenir au jaune finalement. Donc ça a été contrôlé dans ce coin-là. On avait peur au départ là, du cas de variant, entre autres du Brésil, si je ne m'abuse, qui avait été détecté là en premier. Ça s'est replacé la situation. En Outaouais, ça reste fragile, mais tout de même, Québec qui réouvre les écoles primaires à compter de lundi dans ce coin-là. Donc ça on continue à surveiller la situation. Il y a juste 2 MRC de la région qui sont ramenés en zone rouge puis qui passent pas, donc qui restent pas dans les mesures d'urgence comme il y avait avant. Donc ils vont pouvoir revenir comme Québec. Les autres zones, ça va rester à 20h, commerce essentiel non essentiel fermé, etc. Aussi à noter là qu'il y a d'autres régions qui qui vont pouvoir passer là, bientôt du rouge au orange, puis peut-être même de orange au jaune dans les prochains temps. Donc, on continue à surveiller la situation du côté du gouvernement. Il y a une région aussi qui est passée là en mesure d'urgence, c'est la MRC du Granit en Estrie. Pour ceux qui savent pas trop c'est où, c'est la région de Lac-Mégantic, entre autres, en Estrie. On est inquiet de la situation là-bas, donc on a décidé de resserrer les mesures, donc en mesure d'urgence là-bas avec tout ce qui vient avec.
Ouais, parce que c'est vraiment l'endroit où il y avait le plus de cas par habitant. Là. Et je connaissais pas, on connaît peu, je pense, la MRC du Granit. Là.
On était plusieurs mais, se gratter le crâne tantôt.
C'est où le Granit, un peu moins, là. Alors ça nous les a situés, mais effectivement, on a vraiment perdu le contrôle dans ce coin-là, donc on va serrer la vis pas mal, en espérant que ça étouffe tout ça le plus rapidement possible. Revenir sur l'histoire de protection des enfants. Là. On en a parlé hier avec Régine Laurent. Aujourd'hui, Québec annonçait, on voyait le point de presse du ministre de la Famille, également de Lionel Carman, qui disait ben on va prendre ça de front et lance entre autres un groupe interministériel pour aller de l'avant.
Ouais, ils se sont engagés là vraiment aujourd'hui à mettre en œuvre les recommandations qui sont énoncées dans le rapport de la commission Laurent, puis entre autres à l'aide de ce comité interministériel là qui a été annoncé, ministre délégué là à la santé aux services sociaux Lionel Carman, qui a indiqué entre autres que le gouvernement allait nommer le commissaire à la protection de la jeunesse. Par contre, il n'y a pas eu de délai qui a été donné donc pour la nomination de ce poste-là, donc ça sera toujours en attente, en espérant évidemment que ça se fasse dans des délais là assez rapides. C'est ce qu'on disait hier sur nos ondes, ce que tu parlais justement avec Madame Laurent, là, de vouloir avoir une volonté d'agir le plus rapidement possible dans ces cas-là. Aussi, là, on dit qu'on peut pas se permettre, là, surtout à un très jeune âge, de balloter les enfants d'une famille à l'autre. Là. C'est vraiment ce qui a été retenu, parce qu'il y a un problème au niveau des enfants qui sont déplacés de famille d'accueil en famille d'accueil, retour dans leur famille d'accueil, etc. Bref, on veut vraiment éviter ça. On veut y aller avec une philosophie de prévention, ne pas attendre là que les gens se rendent aux urgences, justement, qu'il y a la DPJ à ce moment-là, agir en amont pour s'assurer que les enfants, justement, que les situations problématiques soient prises de court.
Bon, ce sera un défi là de mettre ça en place, mais on va je pense qu'ils auront de la pression pour le réaliser le plus vite possible. Nouvelle qui celle-là était moins heureuse pour le gouvernement de François Legault, ministre Proulx, et là faut dire c'est pas Caroline Proulx, Marie-Ève Proulx qui démissionne de son poste de ministre.
Ouais, Marie-Ève Proulx qui était la ministre déléguée au développement économique régional, donc qui démissionne de ses fonctions ministérielles là, à comprendre qu'elle ne démissionne pas du caucus CAQIS, elle demeure députée, elle demeure membre donc de la députée de la CAQ, mais elle abandonne donc ses fonctions ministérielles. C'est arrivé après qu'elle a été convoquée à une rencontre avec François Legault là. Donc maintenant, ne siège plus au Conseil des ministres, selon les informations de TVA Nouvelles. Quand elle a appris qu'elle était convoquée au bureau du premier ministre, elle a tout de suite rédigé sa lettre de démission. Donc, ça s'est fait d'un commun accord. Ouais. Là, ouais, à ce moment-là, on semblait s'en douter que c'est ce qui s'en venait. La pression qui devenait forte parce que c'est une accumulation d'allégations de harcèlement auxquelles elle faisait face. En février 2020, notre bureau parlementaire qui relevait 14 départs différents dans l'entourage de Mme Proulx, entre autres, il y avait certains de ses ex-employés sous le couvert de l'anonymat qui avaient confié qu'ils étaient la cible d'insultes et même d'intimidation de la part de Mme Proulx. Il y avait même une plainte qui a été officiellement déposée devant le tribunal, mais qui s'est réglée hors cours le mois dernier. On n'a pas plus de détails sur cette histoire-là, mais disons que même là, dans les derniers jours, ça commençait à sentir la soupe chaude. Mme Proulx qui avait perdu son attaché de presse. Là, on était rendu à une vingtaine de départs au sein de son équipe.
Ben oui, puis là, tu te dis, écoute, ils sont pas 500 à travailler pour la ministre déléguée, là. Donc, tu te dis, quand cette quantité de départs-là est quelque chose qui cloche. Et François Legault était questionné aussi, parce que tu as bien dit, 2020, le février 2020, les premières histoires. Et là, tu te retrouves plus qu'un an plus tard à devoir agir. Pourquoi t'as pas fait le ménage avant? François Legault était questionné là-dessus au point de presse en disant, ben, on a fait un suivi, on pensait qu'il y avait du travail qui s'était fait, là, en gros. Puis finalement, c'était pas suffisant. Mais c'est embarrassant, là. Surtout qu'on est rendu à disons, dans la société, on met un peu plus le focus là-dessus, là, essayer d'éliminer les milieux de travail toxiques. On vient de sortir du dossier Julie Payette qui a été immense, mais il y a eu des dossiers politiques qui s'accumulent au niveau municipal, entre autres, là, de milieux de travail toxiques puis de pétage de coche. Il faut agir plus vite, là. Et là, si on est à plus d'un an, une quinzaine de départs pour un bureau qui est pas si immense, puis il y avait quelque chose qui clochait là. Et là, tu gardes quand même la dame dans le caucus caquiste. Ben là, va falloir qu'il se replace, là. Et ça, François Legault dit, ah, mais on va surveiller ça de près. Ouais, parce que là, on peut plus, elle a plus de balles, là, plus de prise. c'est fini, là.
Elle a plus de prise.
Elle a plus de prise. Tu vois mes connaissances du baseball?
Du baseball, oui,
je me lance
ça.
Dans les comparaisons de baseball. et c'est terminé, là. Alors, c'est surtout que la CAQ a pas tant besoin. Ils sont majoritaires. Ils sont pas à un siège près. Elle doit être vraiment, vraiment sur le bord de la porte. Là.
C'est sûr.
J'espère qu'elle le sait.
Commence à manquer de latitude. Tu le disais, le manque de rapidité de François Legault qui a été là, vivement dénoncé par les oppositions. Entre autres, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui lui a reproché de pas avoir agi avec la même rapidité que pour dénoncer le harcèlement en ligne, par exemple.
Oui, c'est pas faux.
Tirer le parallèle, là, François Legault qui a été rapide là-dessus, on peut lui donner là, de réagir le harcèlement en ligne inacceptable lorsqu'il y a des allégations, justement, d'insultes, d'intimidation, d'harcèlement du niveau d'une de ses ministres, ça a été un peu plus long.
Le REM, un dossier qui est très complexe à Montréal, et on apprend qu'il sera souterrain à Montréal-Nord, entre autres, parce que c'est quoi, c'est pas possible de le garder en l'air?
Mais ces informations, en fait, là, c'est la présence d'un pipeline, d'un aqueduc puis de lignes d'Hydro-Québec qui font changer les plans du dessin du REM de l'Est, entre autres. Là, ça a été révélé hier à Radio-Canada. Le tracé va être refait, donc, il était censé passer initialement sous terre pendant 7 km puis regagner la surface dans Montréal-Nord pour le dernier kilomètre dans le quartier. Mais là, finalement, on veut le garder entièrement souterrain pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, ce pipeline, aqueduc et ligne d'Hydro-Québec. La Caisse de dépôt et de placement là, du Québec estime en ce moment que le nouveau tracé va permettre de limiter aussi les expropriations dans le secteur de la place Bourassa. Donc, moins d'expropriation de gens qui habitent dans le coin. Puis, on va rapprocher également le terminus final du cégep Marie-Victorin. Donc, la station Montréal-Nord qui était censée être installée là, va être à l'intersection des boulevards Lacordaire et Henri Bourassa, au lieu d'être sur leur boulevard Roland, comme c'était censé l'être au départ. Donc, c'est sûr que chaque fois qu'on bouge le tracé, on est un peu nerveux parce que c'est le plus important investissement de transport collectif de l'histoire du Québec, des coûts qui sont estimés à 10 milliards de dollars. Puis ça, juste pour le REM de l'Est. Là,
ah oui, dès qu'on voit un changement comme ça, tu vois la cagnotte augmenter. Là. Tu vois la facture monter et vite. Parle-moi de Joe Biden qui a fait le point un peu sur la vaccination aux États-Unis qui va bon train, de sorte que on se fixe de nouveaux objectifs.
Oui, là, le nouvel objectif, c'est de la vaccination. On parlait du mythique 4 juillet, la fête nationale. Il voulait que tout le monde puisse avoir accès à une dose-là. Là, on veut avoir injecté au moins une dose à 70% des adultes aux États-Unis d'ici le 4 juillet.
Et donc, c'est moins que notre objectif au Québec, là. Sinon, on veut 75% d'ici le 24, là.
Oui, exact.
Les États-Unis, mais je comprends qu'eux ont plus de doublement vaccinés. Mais donc, le défi de Joe Biden, ça va être d'aller chercher le monde qui veulent moins, là, qui sont pas mal moins enclins d'aller se faire vacciner.
Exactement. T'en parlais un peu hier, là, parce qu'il y a eu des niveaux de vaccination record au début aux États-Unis. On vaccinait en masse dans les stades, entre autres, là. On a vu toutes sortes d'organisations sportives majeures aux États-Unis qui ont collaboré, prêté leur stade pour faire des grands centres de vaccination, un peu comme si on reproduisait à plusieurs endroits notre stade olympique ici à Montréal. Mais là, le problème, c'est que justement, c'est plus des grands centres que ça prend. On veut changer la tactique pour y aller de proximité. Viser, par exemple, des cliniques mobiles, des points de vaccination plus nombreux pour aller chercher les gens dans des communautés plus rurales ou qui sont plus réfractaires au fait de se faire vacciner. Parce que ça a ralenti. Vraiment, là, on n'est plus dans les records de vaccination. La vaccination ralentit. Et maintenant, on veut que les Américains aillent se faire vacciner, même les plus récalcitrants et les plus loin géographiquement parlant. Il y a un autre objectif également, double objectif, 160 millions d'Américains entièrement vaccinés à la même date. Donc, 70% des Américains vaccinés une dose au moins. Parmi ceux-là, 160 millions de personnes doublement vaccinées, donc vaccinées à plein potentiel.
J'ai l'impression que, quelque part dans l'été, on va être au-dessus des Américains en termes de vaccination et on va être parti avec beaucoup, beaucoup de retard, mais le refus des vaccins va être pas mal plus rare au Québec qu'aux États-Unis, j'en suis convaincu. Quoique c'est quand même trop élevé, là, à peu près partout, même ici. Mais si c'est plus un 20%, je voyais des sondages aux États-Unis, ça va entre 50% et un quart, là, qui disent non, là. Donc, on va se placer où là-dedans?
C'est fou.
Ça dépend des États aussi, pas mal, mais des États où c'est 50% non, t'as pas l'immunité, là, à part, je comprends qu'il y a des places où ils l'ont, il y a une grande partie de la population qui l'a eu, la COVID, là, mais tu règles pas tous les problèmes avec ça, surtout s'il y a des variants. Donc, effectivement, le combat de Joe Biden là-dessus est pas terminé. On traverse l'océan dans l'Union européenne, qui ont eu, eux, quand même de la difficulté à vacciner au départ, à part le Royaume-Uni, là, et là, ils ont repris leur rythme, de sorte qu'ils arrivent à un chiffre quand même important. ans.
Ouais, c'est le quart de la population de l'Union européenne au complet. Donc, on dépasse 150 millions de vaccinations à 153,8 maintenant, là. Donc, ça a été salué aujourd'hui par la Commission européenne. Ça fait à peu près plus de 9% des habitants de l'Union européenne au grand complet qui sont désormais entièrement vaccinés aussi. Donc, c'est quand même...
C'est moins qu'ici.
Non, c'est oui, effectivement, c'est moins qu'ici. On est quand même dans un jalon important là, puis surtout que la Commission européenne a été là, qui était chargée à l'origine là, des précommandes de vaccins au nom de tous les États membres de l'Union européenne, ont été là cible de critiques, de feux nourris. Un peu ici comme les provinces ont critiqué beaucoup Ottawa pour leur lenteur.
C'est le gros bordel en Europe. Là, on critiquait ici, mais fallait savoir que de l'autre bord, ça critiquait aussi. Là.
Ouais, vraiment, parce que au début là, on attendait évidemment toutes sortes de livraisons de plusieurs fournisseurs, mais il y a eu des problèmes, entre autres avec AstraZeneca. C'est une petite guéguerre aussi là-dessus. Il y a même un procès qui est intenté contre eux en ce moment en cours. Des défaillances aussi, là, des délais des approbations réglementaires qui étaient très complexes. Mmh. On oublie, oui, c'est l'Union européenne qui approuve, mais des fois, dans les régionalités, il y a certaines divergences pour les approbations. Donc, ça a été complexe, mais maintenant, là, ils ont accéléré, pesé sur le champignon. Il reste quand même à la traîne derrière, justement, les États-Unis, qui sont à peu près à 30% de la population, là, qui est entièrement vaccinée, avec les chiffres qu'on nommait tout à l'heure. Israël, sont à 58%, Royaume-Uni, 23%. Donc, on tente, là, de rattraper tout ça. Ça veut dire que la France, entre autres, parmi l'Union européenne, en date du 3 mai, c'était 23,9% de sa population qui était vaccinée. Donc, à une dose, évidemment. Donc, okay. Ça reste tout de même rassurant. On accélère, mais c'est toujours pas suffisant.
Et on termine avec une découverte dans les Alpes italiennes.
Oui, je sais que tu es un passionné, autant que moi, Vincent, de ce genre de découverte archéologique-là.
Ouais.
Surtout que celle-là date de pas si longtemps que ça, mais la Première
L'Arche
Guerre mondiale. Dans les Alpes italiennes, non. En fait, ça a été fait en grande pompe, cette annonce-là. Il semblerait qu'il y a des chercheurs depuis 2017 qui travaillaient sur un projet dans le nord de l'Italie, sur un glacier du mont Scorluso. Et dans ce glacier-là, ils avaient découvert, à ce moment-là, une caverne dans laquelle se sont abrités des soldats autrichiens pendant la Première Guerre mondiale. Une espèce de caverne de refuge qui avait servi à une vingtaine de soldats qui étaient stationnés là, qui avait fait en sorte de faire une cachette que personne ne pourrait voir, ni du côté italien, ni même par de la reconnaissance aérienne qui commençait à l'époque. Le problème, c'est que cette caverne-là, même si on savait historiquement que ça existait, avant 2017, c'était impossible de la trouver parce qu'elle était dans le glacier, Vincent, complètement, cette caverne-là. Et là, depuis 2017, justement, ils l'avaient pas annoncé encore parce que, oui, ça fond. Ils ont pu trouver l'entrée une première fois en 2017, mais là, à chaque année, il y avait seulement une toute petite fenêtre entre juillet et août depuis 2017 pour déblayer de la glace, de la roche, toutes sortes d'éléments naturels justement qui avaient bloqué cette caverne-là parce que dans les autres mois, ça regelait. Le glacier reprenait la place et donc il y avait 2 mois par année, c'était la folie. Ils couraient dans cette caverne-là pour essayer de recouvrir le plus d'objets possible. Ils ont trouvé des objets, écoute, des munitions, des casques, des matelas, des journaux de l'époque. Ils ont même trouvé 2 corps encore là, dans la glace coincée de soldats autrichiens qui étaient restés là, avec même leurs papiers. Ils ont pu restituer les corps aux familles, aux descendants aujourd'hui. Mais c'est toute une histoire. Puis maintenant, là, ils vont pouvoir reprendre ces objets-là, les mettre dans un musée qui va ouvrir en 2022. Sur la chose, puis ça donne une fenêtre, là, dit-on, unique sur les, entre autres, la vie de ces soldats-là qui étaient quand même à près de 3000 mètres plutôt en haut du niveau de l'océan, là, qui vivaient des conditions de température de moins 40, qui devaient se battre là-dedans.
Ça doit pas être donc, le gros fun là.
C'est certain, puis c'est un théâtre, si on veut, là, des opérations de la Première Guerre mondiale qu'on n'avait pas, on n'avait plus d'informations historiques, disons.
Merci, Alexandre.